Chapitre 2. La Croix Rose. Florent Mauguin avait eu une enfance malheureuse. Aussi loin qu'il remontait dans le passé, il ne trouvait aucune de ces périodes dont on aime à se souvenir. Élevé par une mère qu'encore aujourd'hui il ne parvenait pas à situer socialement, mais dont il soupçonnait les écarts, il avait passé toute son enfance livré pour ainsi dire à lui-même. Dès l'âge de 12 ans, il avait déjà couvert des carnets entiers de dessins. À 16 ans, il eut comme la révélation qu'il était destiné à devenir un grand peintre. À partir de ce jour, il ne vécut plus qu'avec cette idée, au grand mécontentement de sa mère, à qui de nombreuses aventures sentimentales dans les milieux les plus divers avaient donné, on ne sait trop pourquoi, un profond respect pour la diplomatie et qui rêvait de voir un jour son fils attaché d'ambassade. Puis, un beau jour, elle avait disparu. Florent était alors entré à l'école des Beaux-Arts. Il y était resté peu de temps, contraint qu'il avait été de gagner sa vie en même temps. Finalement, sa persévérance avait été récompensée. Il avait exposé 3 années de suite aux artistes français, ce qui lui avait attiré de petites commandes. Au lendemain du fameux après-midi où il avait attendu en vain la jeune fille qu'il avait rencontrée devant la femme aux gants, une profonde lassitude s'empara de lui. La déception avait été trop grande. Et ce jour, et ceux qui suivirent, il retourna au jardin du Luxembourg, avec l'espoir de retrouver celle dont le souvenir ne le quittait pas. Une semaine douloureuse s'écoula ainsi. Puis il fallut songer à travailler. Le portrait d'Irène Papin attendait d'être terminé. Un matin, il se décida à se rendre chez le père de son modèle. Contre son attente, il fut reçu avec beaucoup de cordialité. Monsieur Papin lui offrit un verre d'un cognac qui lui venait de son frère. Le lendemain, Irène revint poser. Lorsqu'il eut terminé ce portrait, il feignit de le trouver manqué de manière à le conserver, en refit un autre sans conviction qu'il donna à Irène pour la remercier d'avoir si aimablement posé pour lui. Quand l'été vint, il partit avec un camarade, un certain Piat, pour la Bretagne, où, durant 2 mois, vêtu d'un bourgeron et chaussé de sandales, il ne fit que du paysage. Septembre arriva, avec ses soirées fraîches. Il rentra à Paris. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait rencontré l'inconnu, et il ne s'était pas encore passé de journée qu'il n'eût songé à elle. C'était le soir de préférence, quand il était certain de ne plus être dérangé, que, par un effort de mémoire et de volonté, il la faisait revivre devant lui. Il la revoyait alors aussi distinctement que ce fameux après-midi au musée. Puis leurs regards se croisaient. Il lui semblait qu'elle allait lui parler, lui dire pourquoi elle n'était pas venue, lui avouer dans un souffle qu'elle l'aimait et que c'était parce qu'elle avait peur d'elle-même qu'elle l'avait fui. Il retenait sa respiration, mais l'image s'évanouissait et il demeurait plus seul que jamais. Il lui fallait alors pleurer pour détendre ses nerfs, et ce n'était que tard dans la nuit qu'il parvenait à s'endormir. Il y avait une 15aine de jours que Florent était rentré à Paris, lorsqu'un matin sombre et pluvieux, il fut pris d'un tel désespoir qu'il décida d'aller voir son camarade Piat pour tout lui raconter. Mais en cours de route, il changea d'avis. N'eût-ce pas été ternir son amour que de le révéler à un étranger, à un ami même? Sa souffrance, seule au monde, il pouvait la comprendre. La dévoiler, c'était aller au-devant de consolations qui ne pourraient être que superficielles et qui, pour cette raison, ne feraient qu'accroître son désarroi. Un instant, il songea à retourner citer Sera. Mais il n'en eut pas le courage. La perspective de se retrouver dans cet atelier, auquel le sort avait donné le numéro 7, seul avec lui-même, entre 6 ateliers le précédent et 4 le suivant, était trop triste. La pensée lui vint alors de faire un tour à l'école des Beaux-Arts. Il reverrait peut-être d'anciens camarades. En revivant le passé, il oublierait le présent. Ce fut ainsi qu'il apprit qu'une certaine Madame Gaston Lacour-Dupuis organisait une grande vente de charité dans son hôtel de l'avenue Kléber au profit de la Croix-Rose, œuvre qu'elle avait fondée pour les nourrissons des 3e, 12e, 13e, 19e et 20e arrondissements. Elle demandait à tous les artistes, sans distinction d'école, de contribuer au succès de cette vente en permettant qu'une ou plusieurs de leurs œuvres fussent vendues aux enchères américaines, en échange de quoi leur serait remise une carte de membre bienfaiteur. Florent songea au portrait qu'il avait fait d'Irène Papin, qui était, comme il disait, sa chose la plus réussie. Il l'avait terminé sur le coup d'une si grande déception, et il y avait mis tout son cœur. Puisqu'il n'avait plus l'espoir de revoir jamais celle qu'il avait inspirée, ne valait-il pas mieux qu'il se séparât de tout ce qu'il a lui rappelé? En remettant ce portrait à une bonne œuvre, comme un homme riche l'eût fait de sa fortune, tout en parvenant à ses fins, il ne reniait rien. Madame Gaston Lacour-Dupuis, qui, en même temps qu'elle avait demandé aux artistes de l'aider dans la lutte qu'elle livrait à l'égoïsme du monde, s'était adressée également à diverses corporations d'artisans, le temps où la charité n'était pratiquée que par certaines classes privilégiées étant, selon elle, révolue, remerciait personnellement tous ceux qui lui faisaient parvenir un don. Au reçu du portrait de Mademoiselle I.P., elle écrivit la lettre suivante à Florent Maugas. Monsieur, au nom de la Croix-Rose et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier vivement de contribuer au succès de la vente que j'organise le 15 octobre, comme vous le savez, en mon hôtel. Mon rôle est ingrat. Il consiste à solliciter sans cesse. Vous me pardonnerez donc, j'en suis certaine, de ne pas me montrer entièrement satisfaite. Oh, ne croyez pas que je trouve insuffisant le don que vous avez eu l'extrême générosité de nous faire parvenir. Au contraire. Et c'est justement pour cela que je me permets de vous demander d'assister à notre fête, votre présence ne pouvant qu'augmenter la valeur du portrait de Madame I.P. Florent Maugas était très susceptible. Aussi fut-il un peu froissé par cette lettre. Mais quand on souffre, ne trouve-t-on pas souvent un apaisement à être méconnu et mal compris? Le 15 octobre, comme le lui avait demandé Madame Gaston Lacour-Dupuis, Florent se rendit à la vente de charité. Il était loin d'éprouver cette petite satisfaction que trouve d'habitude un artiste à être associé au succès de son œuvre. Il ne cessait de songer à cette jeune fille inconnue qui avait bouleversé son existence, simplement en la traversant un instant. Quoi qu'il fît, son image le poursuivait. « Je suis quand même ridicule, » se disait-il parfois. « Il a suffi de quelques instants pour que je perde la tête, au point que 6 mois plus tard, je suis encore incapable de penser à autre chose. » Cela n'est pas naturel. Eût-elle été 10, 100 fois plus belle qu'elle ne l'est, que... Il s'efforçait de penser à autre chose, en vain. Les yeux bleu ciel de l'inconnu se multipliaient. Il portait les mains à son front. Comme pris d'un vertige, il lui semblait qu'il titubait, qu'il allait tomber. Il tombait. On le relevait. Il croyait entendre que des passants compatissants disaient qu'elle seule pourrait le sauver, qu'il fallait la chercher, la conduire à son chevet, cela par humanité. Une seconde s'était écoulée. Tout cela n'était qu'un rêve, affreux, parce que la réalité paraissait si terne après. Il traversa un grand hall où se pressait une foule élégante. Partout, des comptoirs étaient dressés. On y vendait les produits les plus divers, jusqu'à de l'épicerie. Des banderoles de couleurs flottaient doucement au plafond. On y lisait, en lettres gothiques, comme une procession à l'honneur de Jeanne d'Arc, la croix rose. Sur la 3e ou 4e marche d'un escalier que gardaient 2 lions de marbre, beaucoup plus petits que nature, de la taille d'un chien, mais d'un abandon remarquable, Madame Gaston Lacour-Dupuis essayait d'obtenir le silence. Quant aux vendeuses, on les reconnaissait toutes à leur uniforme. Robe blanche, semblable à celle des infirmières, n'eussent été un charmant décolleté en rond et la croix rose brodée sur le cœur, légère comme une libellule. Florent était étourdi. Il ne connaissait personne dans cette foule. À un valet de pied, il demanda s'il n'y avait pas une salle où avaient été réunies les peintures. Peu après, il pénétrait dans un boudoir où plusieurs tableaux, chacun porteur d'un numéro, avaient été posés provisoirement sur les fauteuils et sur les consoles. Masqué en partie par une toile plus petite, il reconnut dans un coin le portrait de Mademoiselle I.P. À ce moment, une dame à cheveux blancs, portant à son corsage la rosette de la Légion d'honneur, s'avança vers lui. « Vous êtes sans doute, monsieur, l'auteur de ce délicieux paysage, car je viens de remarquer que vous avez pour lui le regard d'une mère pour son enfant. » « Non, madame, je suis l'auteur du portrait qui se trouve derrière. »« C'est vous l'auteur du portrait charmant de Mademoiselle I.P. ?»« Oui, madame. »« Comme je suis heureuse de vous connaître. Tout à l'heure, justement, quand Madame Lacour Dupuy nous donnera le signal, nous allons procéder à la vente. Aussi, je vous prierai de ne pas vous éloigner. Le public est tellement amusant. Connaître l'artiste dont il possède une œuvre lui fait si grand plaisir.
Je ne m'éloignerai pas, madame, répondit Florent.
Il venait à peine de prononcer ces mots qu'il pâlit, puis, au grand étonnement de la collaboratrice de Madame Lacour Dupuy, après avoir balbutié quelques vagues excuses, il s'enfuit presque en courant et se perdit dans la foule. Soudain, il reparut à l'autre extrémité du hall. Il était encore plus blanc qu'avant cette disparition. Il s'arrêta. À un pas de lui, vêtue du charmant uniforme de vendeuse de la Croix-Rose, se trouvait une grande jeune fille blonde, si intimidée qu'elle se tenait les bras dans une attitude manquant un peu de grâce. C'était l'inconnue du musée du Luxembourg.
« Mademoiselle !» dit Florent avec une si grande émotion qu'il dut s'arrêter une seconde au milieu du mot.
La jeune fille rougit, puis sourit par contenance.
« Je ne peux croire, continua le peintre, que c'est vous, que c'est vraiment vous. Pourquoi, dites-le-moi, pourquoi n'êtes-vous pas venue ?»
De rouge, elle devint écarlate.
« je vous en prie, balbutia-t-elle, ne me parlez pas ici. »
« Il le faut. Depuis 6 mois, je ne vis que pour cet instant, mademoiselle. Vous allez peut-être croire que je n'ai pas ma tête à moi, mais il ne s'est pas passé une journée, depuis le jour où je vous ai rencontrée, que je n'ai pensé à vous. Si vous saviez comme j'ai souffert. À certains moments, j'ai cru que je ne vous reverrais jamais, à d'autres, je ne pouvais le croire.
Mademoiselle.
Monsieur, je ne peux pas vous parler plus longtemps, il faut que je m'en aille. Ma mère est ici, si elle me voyait en votre compagnie, elle s'étonnerait.
« Vous allez partir, je ne vous reverrai plus. »«
Tout à l'heure, si vous voulez, après la tombola. Mais à présent, il faut que j'aille à mon comptoir. »«
Et si vous ne pouviez venir, dites-moi au moins où je pourrais vous retrouver. »
La jeune fille hésita un instant. « 44 avenue du président Wilson. Je m'appelle Daniel Marondier. » Ce fut d'une voix à peine perceptible, comme si, consciente de la gravité de ce qu'elle faisait, elle espérait ne pas être entendue, qu'elle livra ainsi ce dont elle n'avait pas encore pris possession, son identité.
« Florent Maugas, » murmura à son tour le peintre.